Jean-Charles Tadei de la Ligue des droits de l'homme m'a rejoint dans les studios pour évoquer la disparition de l'appellation René Cassin à une école de l'agglomération. Jean-Charles, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle école de l'agglomération? Qui était René Cassin? Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est à toi.
Voilà. Alors donc, il s'agit d'une école qui est située sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, donc dans l'agglomération. Et on a été alerté donc par un de nos membres qui s'est aperçu, puisque ses propres enfants allaient régulièrement à l'époque dans cette école, et bien que le nom avait changé. Alors en fait, pour vous expliquer un peu l'historique de cette histoire, c'est tout simplement parce que un éminent enseignant dans cette école était décédé quelques années auparavant. Ce que nous compatissons évidemment, mais cet enseignant ayant une aura certaine dans cette école, les enseignants et ensuite le conseil municipal a voté le fait d'enlever la précédente appellation, qui était donc de René Cassin, je vous en parlerai après, pour mettre le nom de cette personne. Alors nous ne voulons pas faire de polémique par rapport à cette personne, qui était certainement une personne très, tout à fait éminente et tout, mais ça nous a fortement choqués, parce qu'il y aurait pu y avoir des modalités de mettre deux noms côte à côte peut-être, mais en tout cas pas d'enlever le nom de René Cassin, parce que ça a une force symbolique et on y est très attaché pour la raison suivante. En gros, René Cassin, principalement pourquoi la Ligue des droits de l'homme est attachée, parce qu'il est tout simplement co-rédacteur de la DUDH. La DUDH, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la déclaration qui est la charte des Nations unies de 1948. Il faut savoir que cette charte n'a effectivement pas de vertu contraignante. Elle est toujours en termes d'objectifs, c'est-à-dire que les États ont un certain nombre d'années pour peu à peu atteindre les objectifs qui sont dans cette charte. Par contre, les pactes civils et politiques qui ont été signés après ont vertu contraignante juridique. Mais le symbole est évidemment très fort, surtout quand on connaît l'histoire de René Cassin.
René Cassin, du coup, qui était né à la fin du 19e siècle et qui est mort il y a quasiment 40 ans. Qui a été membre du gouvernement de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais jusqu'en 1945 avec De Gaulle à Londres. Il a été président de la Cour européenne des droits de l'homme de 1965 à 1968. Il a été prix Nobel de la paix également en 1968. Enfin voilà, un personnage qui repose aujourd'hui au Panthéon. Qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme demande aujourd'hui? Juste un rappel de la mémoire de cet homme, René Cassin?
Eh bien, on voudrait trouver un modus vivendi avec, bien sûr, la mairie de Saint-Jean-de-Védas, parce que il faut savoir que, par exemple, la FCPE, qui est la principale association de parents d'élèves de cette école, a voté contre ce retrait de ce nom. Donc, il doit pouvoir y avoir un moyen de revenir sur une décision qui ne met pas du tout en cause la nouvelle appellation, mais qui ne doit pas enlever ce symbole fort. Hein. Il faut savoir que les droits sont constamment attaqués depuis un certain nombre d'années. Donc, il faut absolument garder comme référence pour les élèves quelque chose qui fasse qu'après, ils soient peut-être un peu plus sensibilisés à cette question-là. Alors effectivement, René Cassin a été mutilé pendant la guerre de 14. Il a porté une ceinture abdominale pendant tout le reste de sa vie. C'était un juriste. Et bien sûr, il a été en tant que juriste, comme tu le rappelais, donc co-rédacteur de cette déclaration, président donc de la Cour européenne des droits de l'homme, prix Nobel de la paix. Il a été aussi vice-président du Conseil d'État.
44 à 59.
Voilà, il avait rejoint donc la France libre dès 40 et donc il a participé à de nombreux textes juridiques qui ont fondé un petit peu après le retour de l'état de droit après 44.
Est-ce que c'est pas un peu aussi un oubli de mémoire petit à petit une personne qui disparaît comme ça dans la tête de nos petits chérubins et justement qu'il faudrait par le biais de plaques, par le biais de lecture de discours ou de peut-être comme ça qu'il faudrait rappeler la permanence de cet homme-là.
Tout à fait.
Et au-delà de la personnification, mais surtout la Charte des droits de l'homme.
Bien sûr. Et donc, les textes, si vous voulez bien sûr être sensible, vous tapez Ligue des droits de l'homme et vous avez dans les textes de référence que l'on cite, bien sûr, cette déclaration. Vous verrez que, par exemple, les choses ne sont pas malheureusement abouties. Il y a encore des pactes qui nécessitent son application, qui sont en cours encore de négociation, où la France se refuse. Je pense par exemple à quelque chose qui a été dit sur le plan politique tout à fait récemment, où un des candidats s'engageait par exemple à signer la charte des langues régionales, qui est quelque chose qui fait défaut à notre pays. Et il y a plusieurs choses comme ça qui... Alors, il faut savoir qu'après, vous avez eu des choses qui ont un petit peu affiné ce que disait la DUDH, c'est-à-dire vous avez la CIDE, c'est-à-dire la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous avez la CEDAO, c'est-à-dire la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Donc voilà, c'est un cheminement. Et ce sont des textes fondateurs sur ça... qui nous servent, nous, après, pour, bien sûr, la jurisprudence lorsque les droits sont attaqués dans différents domaines, puisque les États, en théorie, sont partie prenante de cette déclaration universelle.
Concernant la charte, l'ordonnance de 48, il me semble, la charte des droits de l'enfant, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, l'ordonnance de 48, il me semble que la France a quelques soucis au niveau des avancées à faire. Et il n'y a que cette base-là, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'âge minimum pour les mineurs. Au niveau de la France est bien en retard et se fait sermonner relativement souvent.
Tout à fait.
Par rapport à cette ordonnance.
Tout à fait. On a été condamné plusieurs fois. Alors, Cassin avait été effectivement président de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que, parce que les gens confondent un petit peu, vous avez trois cours comme ça internationales au niveau européen. Vous avez une Cour internationale de justice, alors qui concerne tous les États du monde, qui est à La Haye. Vous avez une Cour des États de l'Union européenne qui eux, ne fait que juger les États membres de l'Union européenne, et vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui fait référence à cette convention européenne, qui, elle, siège à Strasbourg, qui comprend 45 États, qui va donc de la Bretagne jusqu'à l'Oural. Donc c'est une d'ailleurs, qui est en ce moment attaquée. Il faut savoir que les États reprochent, en fait, les condamnations de cette Cour sur des textes qu'ils ont eux-mêmes signés. En quelque sorte, ils renient un peu leur engagement.
Merci Jean-Charles, le temps passe assez rapidement. Merci d'avoir évoqué avec nous ce personnage, René Cassin, et autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, de 1948. On suivra cette affaire, savoir si ça avance un peu, et surtout, tant qu'à avoir un petit devoir de mémoire de temps en temps, que ce soit pour des bonnes choses. Voilà, Jean-Charles Tadei, merci, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être que ce sera vous, peut-être pas. Nous verrons ce que nous évoquerons. À suivre, on va terminer avec un petit titre de Jacques Brel, et ça sera Pierre-Luc Chevanier qui va nous rejoindre dans les studios.
On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. Jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars avalaient des soldats qui faisait ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Quand me repassaient en pleurant nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards, et les femmes s'accrochaient aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée, on jouait un air comme celui-ci. Lorsque la guerre est arrivée, je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé. C'est un armé que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Une femme s'accrochait à leurs larmes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. D'un ciel plus bleu qu'à l'habitude, ce mai 40 a salué quelques Allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude. L'honneur avait perdu patience et chaque bourg connut la crainte et chaque ville fut éteinte. Et les femmes s'accrochèrent au silence.